France Inter, le 7-10.
7h49, Sonia De Villers, vos invités ce matin sont grands reporters.
Voilà, elles sont les autrices d'une grande enquête diffusée sur Arte et intitulée « Ukraine sur les traces des bourreaux ». Deux journalistes récipiendaires du prix Albert Londres, ayant sillonné l'Europe de l'Est et la Russie, qui traquent ici, en Ukraine, les preuves d'un crime de guerre massif, crime non seulement perpétré par les hommes de Poutine, mais crime dûment planifié par Moscou, affirme-t-elle. Manon Loiseau, Xena Bolshakova, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
On peut déjà voir ce film saisissant sur le site d'Arte et il sera diffusé à l'antenne le 21 février. Torture, meurtre, pillage, viol, kidnapping, déportation, ce que votre enquête en Ukraine raconte n'entre pas dans le cadre de la guerre.
Wow.
Xena Bolshakova.
Ce qu'on a surtout voulu raconter, c'est la préparation, la préméditation et l'implication de l'État russe et de toutes ses structures dans ce qui est en train de se passer en Ukraine. Au-delà des témoignages qu'on a recueillis de victimes de ces crimes, ce qu'on a vraiment voulu prouver, c'était la mise en place d'un système et surtout la préparation d'une occupation, de la russification des territoires qui étaient occupés par Moscou, de la complicité aussi d'un certain nombre de ministères, par exemple. Moi, ce qui m'a vraiment marqué au cours de cette enquête, c'est le rôle du ministère de l'éducation russe. D'abord, dans la déportation des enfants ukrainiens, parce que c'est le ministère de l'éducation russe qui orchestre ces déportations. Et également dans la planification de la russification des zones occupées, de la russification de l'éducation ukrainienne notamment. Ça, c'est encore une fois le ministère de l'éducation russe qui est en charge de ça.
À Izium, par exemple, pourquoi dit-on que la pratique de la torture a dépassé là-bas tout ce qui a été commis ailleurs ? Sur le sol ukrainien. Manon
Loiseau. Alors, Izium, on est arrivé à Izium 10 jours après le départ des troupes russes et on y est allé pendant 6 mois. Donc, on a pu peu à peu reconstituer en fait la pensée du crime. Il s'agissait de terroriser rue par rue. Les hommes étaient arrêtés, torturés, suppliciés, torturés à l'électricité. Moi, ça m'a rappelé à tous les témoignages que j'avais recueillis pendant près de 20 ans en Tchétchénie. C'était exactement les mêmes méthodes. Les achiskas embarquer les hommes, les supplicier pour terroriser et assujettir la population. Et derrière ça, il y avait aussi la pensée, la pensée du crime, c'est-à-dire que tout était pensé. C'est-à-dire qu'il y avait des élites qui avaient été préparées pour remplacer les anciennes élites ukrainiennes. On a rencontré une psychologue qui a filmé une cérémonie complètement surréaliste d'enfants ukrainiens qui ont remis des diplômes russes. Les professeurs, beaucoup de ses amis, des dizaines d'entre eux, ont été envoyés en Russie pour être formés pour, dès septembre 2022, appliquer le programme russe. Les manuels scolaires étaient prêts. On a visité une salle où il y avait des cartons qui venaient de toute la Russie avec des manuels scolaires, avec des mots de directeur d'école de Vladivostok, c'est bienvenue en Russie. Donc c'était non seulement un crime...
Manuel scolaire qui s'intitule Ma patrie et la Russie.
Ma patrie et la Russie. Donc tout ça, comme on a suivi le vice-maire d'Izium, Alexei Matsokin, qui découvre devant nos yeux en fait, dans un des QG de l'armée russe, qui était un ancien théâtre, toutes ses affaires personnelles, ses albums, et aussi des listes, ces fameuses listes, en fait, des élites qui sont allées traquer. Les Russes sont arrivés avec des listes des élites à abattre. Donc la torture, elle était partout. Et il y avait aussi la radio Z, donc c'est cette fameuse radio pour de propagande. Donc les gens étaient chez eux, il n'y avait plus de communication. La seule chose qu'ils avaient, c'était cette radio qui leur a donné des nouvelles des grandes victoires russes et qu'eux allaient devenir bientôt russes.
Et c'est une liste, Manon Loiseau, vous vous en êtes procuré certaines. Hein. On voit en effet le nom de tout un tas de femmes et d'hommes qui sont généralement décrits comme des néo-nazis extrêmement dangereux. Mm-hmm. En réalité, derrière, il y a des journalistes, des profs, des chercheurs, des fonctionnaires. Et surtout, vous mettez au jour toutes les deux quelque chose dont on a assez peu parlé, c'est-à-dire tout un tas de collaborateurs et de collaborationnistes ukrainiens, de fonctionnaires qui ont retourné leur veste et d'élus qui ont retourné leur veste. Il y a aussi des délateurs en masse, hein, des lettres de délation, pour servir le FSB et pour servir les agents de renseignement russes.
Ce qui est intéressant avec ces listes, c'est qu'au début, on démarre notre enquête en mai 2022 et on pense que ces listes, c'est une légende urbaine. Tout le monde nous dit, il y a des listes, les Russes sont arrivés avec des listes pour arrêter des gens. Et pendant des mois, au cours de l'enquête, on en cherche de ces listes, on est vraiment en quête, et une de nos sources finalement finit par nous en fournir une. Elle concerne la ville de Kherson, qui est aujourd'hui encore occupée par les forces russes, et c'est une liste de 72 noms qui a été rédigée par un collabo. C'est-à-dire que cette personne était députée, c'était un député ukrainien qui a très vite retourné sa veste, mais en 2014, à l'époque où il y a déjà les premiers séparatistes qui arrivent dans la région, et c'est lui qui va rédiger cette liste avec des personnalités politiques, il y a également des journalistes, et toutes ces personnes sont qualifiées, alors les termes sont odieux, de néo-nazis, d'ordures, de personnes à arrêter, à abattre, à neutraliser, et ce collabo va fournir cette liste effectivement au service de renseignement russe, qui a joué un rôle très important dans ces régions-là, c'est-à-dire qu'il y a le FSB, il y a l'administration pénitentiaire russe, il y a énormément d'agents de, notamment de la garde nationale, enfin beaucoup, beaucoup.
Alors justement, vous êtes rendues toutes les deux sur un certain nombre de lieux où la torture a été pratiquée de manière massive, intense et régulière. Qui sont les bourreaux ? Manon Loiseau.
Les bourreaux, il y a les Russes, mais il y a aussi, on a notamment assisté à un procès.
Chez les Russes ? Parce que justement, vous avez montré qu'il y a différents profils de bourreaux.
Alors, les hommes qui torturent, c'est les
agents du FSIN, il y a les forces spéciales, il y a les gens du FSB.
Il y a les militaires, il y a les agents des services de renseignement russes, aussi bien FSB que GRU, c'est-à-dire les renseignements militaires. Il y a, d'après nos témoins, en tout cas c'est eux qui nous racontent ça, les hommes de la Rosgvardia. La Rosgvardia, c'est la garde nationale russe qui est sous autorité directe de Vladimir Poutine. Il y a également des hommes qui font partie des unités militaires de la fameuse DNR-LNR, donc ce sont ces fameux séparatistes originaires des régions de Donetsk et de Lugansk. C'est-à-dire que c'est toute une armada, c'est une armée entière faite de différents profils finalement de tortionnaires et de bourreaux qui sont actifs dans ces régions-là.
Et sur cette question, pardon,
on arrive à reconstituer ça à travers justement les victimes qui entendaient les mots, qui entendaient les gens se parler entre eux. Donc on arrivait en fonction des victimes qu'on rencontrait à Izium à voir qui étaient les bourreaux. Il y a aussi parmi les bourreaux des Ukrainiens. Moi, j'ai notamment filmé un procès. En fait, les procès commencent en ce moment alors que la guerre n'est pas finie. Comment Izium va se reconstituer alors que 50% de la population était pro-russe et l'autre a résisté. On a filmé, il y a dans des rues, il y a des gens qui ont été torturés et en face, il y a le voisin qui les a dénoncés. Et on a notamment filmé le procès d'un homme d'affaires qui, quand les Russes sont arrivés, s'est proposé d'aller voir la milice russe pour dire « je veux participer aux milices et arrêter les miens ». Donc ça, c'est un énorme travail qui va...
C'est une question abyssale que pose votre enquête et sur laquelle on ne s'est pas encore énormément penché. Il y a aussi la question de la preuve. Hein. Vous vous heurtez, vous, journaliste d'investigation, au même problème que rencontrent les Ukrainiens ou que rencontrent les ONG. Comment collecter des preuves sur les sévices, les crimes de guerre en tout genre qui ont été commis sur le sol ukrainien ?
La grande difficulté aujourd'hui, c'est que la guerre est toujours en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut collecter des preuves ? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire un procès à des criminels alors que la guerre est toujours en cours ? Ça, c'est un énorme défi, aussi bien pour les enquêteurs ukrainiens que pour les ONG qui travaillent. Nous, on a suivi, dans le cadre de cette enquête, l'équipe de Human Rights Watch, qui enquêtait sur la torture. Et le rapport qu'ils ont rédigé à la fin de cette enquête a été transmis aux autorités au TPI, a été transmis aux autorités ukrainiennes, évidemment. Ce que font aussi un certain nombre de journalistes d'investigation, ils transmettent leurs données. Mais la grosse difficulté de la guerre qui est toujours en cours, c'est que par exemple, nous on a des sources au sein du renseignement ukrainien qui nous ont raconté avoir arrêté des tortionnaires, des militaires russes qui avaient torturé, abattu des civils. Eh bien, ces hommes avaient été placés en détention et quelques jours plus tard, ils s'étaient évaporés. Et la raison, c'est très simple, c'est qu'ils ont été échangés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas arriver jusqu'au bout d'un procès, arriver jusqu'au bout d'une procédure, parce que les tortionnaires et les bourreaux, finalement, eh bien, sont échangés pour libérer des militaires ukrainiens qui sont prisonniers de guerre en Russie aujourd'hui.
Ukraine, sur les traces des bourreaux, est déjà disponible sur le site d'Arte et sera diffusé demain soir. Merci à toutes les deux, Nadia Bolchakova et Manon Loiseau.